الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المبين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، يطيب لي أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وسوف يكون حديثنا عن بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ونظراً لضيق الوقت فنعتذر أمام الإخوة والأخوات الذين يفهمون اللغة العربية، لكنني سأقتصر عن التحدث بالفرنسية حتى نستوعب الموضوع بتمامه بفضل بمشيئة الله عز وجل. Mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous une fois de plus dans cette mosquée bénie, afin que l'on parle ensemble, Inch'Allah ta'ala, de certains versets du Coran. Et, vu le temps qui nous est imparti, je vais principalement m'exprimer en français afin que, premièrement, on puisse cerner le sujet, et deuxièmement, afin que tout le monde comprenne, Inch'Allah ta'ala. Je m'excuse donc auprès des frères et sœurs arabophones, je parlerai un peu en arabe, mais pas beaucoup. Taïb, on va voir ensemble, Inch'Allah ta'ala, l'explication, bien entendu en fonction de ce qu'on peut en donner, de Surat At-Takwir. Surat At-Takwir, qui est traduit en français par l'obscurcissement. On va voir par la suite, comme vous commencez à me connaître, on va revoir certaines traductions. Avant de rentrer dans le détail, il faut faire référence à de nombreuses règles, du moins à quelques règles qui régissent l'explication coranique. Et d'ailleurs, lorsqu'on étudie le Coran, et qu'on étudie le sens des versets du Coran, il faut qu'on sache que les savants ont, après étude des textes, institué des règles qui régissent la compréhension du Coran. Ces règles qu'on trouve dans des livres comme celui de Ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Muqaddimah fi Usul al-Tafsir, ou bien dernièrement une risala de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah ala al-jami'. Ce sont des livres qui nous expliquent certaines règles et certains termes propres à cette science. Première des règles qu'on va voir ensemble, c'est par quoi on interprète, par quoi on explique le Coran. Les ulama nous disent qu'on peut expliquer le Coran par quatre points, par quatre domaines. C'est pas au choix. Il faut absolument les prendre dans l'ordre. Le meilleur des domaines avec lequel on va interpréter, ou du moins expliquer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala elle-même. Car le Coran, comme a qala ahlul ilm, yufassiru ba'duhu ba'da. Le Coran, comme les savants nous l'expliquent, s'explique, ses différentes parties s'expliquent les unes les autres. Exemple, si je demande à quelqu'un Al-Qari'a, qu'est-ce que Al-Qari'a? Alors il y en a qui vont commencer à philosopher dans des explications linguistiques, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même répond à cela en disant Al-Qari'a, Mal-Qari'a, wa ma adraka mal-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush. Donc là, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu lui-même à cette question, qu'est-ce que Al-Qari'a, le fracas, qui est un des noms du jour du jugement. Si il y a un verset dont on ne trouve pas l'explication dans le Coran, alors la deuxième position, c'est la sunna. Barakallahu fik, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui transmet la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'humanité. C'est l'être humain qui connaît le mieux le Coran. Il est donc normal et élémentaire à ce qu'on revienne à sa parole pour définir certains éléments qui peuvent paraître confus dans le Coran. Exemple, qawluhu ta'ala lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont été bienfaisants, al-husna yani al-jannah, la bonne promesse, la promesse véridique, wa ziyada et plus encore. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique هذه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que cette ziyada, ce plus, c'est le fait de pouvoir contempler le visage d'Allah تبارك وتعالى. Qu'Allah fasse que nous tous ici fassions partie de cela. Lorsque on est confronté à un verset ou dans la sunna, on n'a pas d'élément nous permettant de le comprendre. Alors, troisième position, ish. Irfa'u aswata, comment tu chmouch? Irfa'u aydiyakum qabla an tarfa'u aswatakum. Levez vos mains avant de lever vos. Tfadal. La. Akram? As-sahaba, barakallahu fik. As-sahabatu, radiallahu anhu. As-sahabatu, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces hommes et ces femmes qui étaient présents lors de la révélation du Coran. Lors de la révélation du Coran. Et sachez que ceux qui prouvent que ses compagnons comprenaient le Coran, ce sont le peu de hadiths dans lesquels les sahabas demandent après des termes qu'ils ne comprennent pas dans le Coran. Donc le fait qu'on ait des hadiths, malgré leur petite quantité, qui nous indiquent que les sahabas radiallahu anhum, des fois, ne comprenaient pas des éléments du Coran, prouve que le reste était compris. Comme un far qu'Ibn Kathir rapporte dans Sourate Yusuf, quand Allah Ta'ala a parlé du sikkin. Sikkin, c'est un mot qu'on emploie tous ici, le couteau. Et bien Omar, il a demandé c'était quoi le couteau. Allez, le sikkin, ce mot-là, c'était pas un mot employé chez Quraysh. Et comme aussi dans Sourate Abasa, wa faqihatan wa abba. Abba, on a aussi un far comme quoi Omar a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que voulait dire le mot abba? Qui voulait dire habba, yani une graine. C'était des mots qui n'étaient pas couramment employés dans la langue, le dialecte que parlaient les sahaba radiallahu anhum, du moins en fonction de leur région d'origine. Maintenant, si on fait abstraction de ces hadiths dans lesquels les sahaba radiallahu anhum demandent, ça veut dire que tout le reste était compris. Tout le reste était compris. Donc, sahaba radiallahu anhum nous explique le Coran. Et en particulier, أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم في مجال التفسير كابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وغيرهما كثير. Et en particulier les grands savants parmi les compagnons رضي الله عنهم, notamment dans le tafsir, comme Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas رضي الله عنهما, qu'on a surnommé Turjuman al-Quran, l'interprète du Coran, celui pour lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a invoqué en disant اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. Ô Allah, enseigne-lui l'interprétation et instruis-le dans la religion. Et on a Ibn Mas'ud radiyallahu anhu aussi, duquel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, raditu li ummati ma radiya laha ibn ummi abd. J'agrée, je suis satisfait pour ma communauté de ce que Ibn ummi abd, qui était un surnom d'Abdullah ibn Mas'ud, a accepté pour elle. Et dans notre hadith, le prophète dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, toujours sur Abdullah ibn Mas'ud, من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة أو فليقرأ بعهد Ummi ibn Ummi Ahd. Ibn Ummi Ahd. Ou comme a dit alayhi salatu wassalam. Celui qui veut lire le Coran, catégoriquement, tel qu'il a été révélé, qu'il le lise comme Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Ahd le lisait. Des tazkiyats de la part de la meilleure des créatures. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on cherche dans le Coran et on ne le trouve pas, chez les, on trouve un verset qu'on ne comprend pas, et on ne trouve pas dans le Coran son explication, ni dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans celle des compagnons radiyallahu anhum. Quatrième et dernier point, quel est-il? Al-akh? Ish? Kalamuka sahih, yahtaj ila tafsil. Al-akh? La. Al-tabi'in. Salaf salih, hassan. Al-tabi'in, yani la génération qui est venue après, ish? Qui est venu après les sahaba radiyallahu anhum, ces hommes-là qui ont été éduqués par les compagnons radiyallahu anhum. Lorsque je dis aux frères non quand ils parlent de l'oral arabia, ça ne veut pas dire que l'oral arabia est exclu. Kalla. Lakin yuqaddam, yuqaddam, ou tuqaddam هذه النقط الأربعة السالفة الذكر على النظر في اللغة العربية لاستيعابها معاني كثيرة. فإذا احتمل في الآية الواحدة أكثر من معنى فالأولى أن ننظر في ما ذكرناه من النقط الأربعة. Quand je dis non pour la langue arabe, faut savoir que la langue arabe est très vaste et immense et large. Et que il arrive très souvent que pour un mot, on puisse trouver de nombreux sens. Donc plutôt que de choisir le mauvais sens pour le mot, on met la sécurité en avant et on met les quatre points qu'on a cités en premier. Le Coran en premier, la Sunna en second, les Sahaba en troisième, les Tabi'in en dernier. Et l'oral arabia va venir aider et insister et appuyer ces quatre points-là. Mais se baser que sur l'oral arabia peut être dangereux. Peut être dangereux, notamment chez certains groupes égarés, dans la croyance, comme l'Asha'ira, qui ont comme origine de beaucoup de leurs égarements, le fait qu'ils ne se soient appuyés que sur la langue arabe. Donc c'est à faire attention. Ça, c'est la première des règles qu'on va voir ensemble dans Tafsir Hadihi Surah. On verra d'autres règles, Inch'Allah, au fur et à mesure de qu'on avancera dans le DAS. On a choisi Surat At-Takwir. Surat At-Takwir qui est une surat mekwaz. Et comme on l'a déjà dit, on le répète, Inch'Allah, sans se lasser et sans vous lasser, j'espère. Le Coran est divisé en deux grandes catégories. Le Coran qui a été révélé pendant la période mekwaz et le Coran qui a été révélé pendant la période médinoise. Le Coran qui a été révélé pendant la période mekwaz se distingue par différents points. Premièrement, qu'il parle en général de trois grands points, de trois grands axes. Premièrement, الدعوة إلى توحيد الله أي إفراده بالعبادة. Premièrement, l'appel à l'unicité d'Allah تبارك وتعالى. Deuxième point, إثبات صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. Deuxième point, l'affirmation que le message prophétique est réel. Et troisième point, إثبات البعث والنشور. Troisième point, l'affirmation du jour de la résurrection et du jugement dernier. Le Coran à Mecca tourne en général autour de ces trois points-là. Et s'il y a des sujets qui découlent de, qui supplémentaires, alors ils découleront d'un de ces trois axes. Ensuite, on reste dans le Coran, mais quoi? On remarque que les versets sont courts. Ce ne sont pas des longs versets. Ils sont courts dans leur taille, mais ils sont forts dans leur sens. Ils sont forts dans leur sens. Regardez, مثلاً, surat Al-Muddathir, ou bien surat Al-Qiyamah, ou bien les sourates qui sont dans les derniers Ahzab du Coran. Autre point par lequel se distingue le Coran, mais quoi? C'est qu'il est en général dépourvu de règles juridiques, d'obligation ou d'interdiction. En général, je ne dis pas qu'il est complètement dépourvu, là. Mais en général, il parle d'autre chose. Et les exemples continuent. Donc, on a dit que trois points essentiels étaient en général présents dans la période mécoise. Da'watu ila tawhid, l'appel vers le tawhid. Le deuxième, c'était quoi, qui s'en souvient? Voilà, l'affirmation du message prophétique. Et le troisième, Aywa, al-ba'th wa an-nushur, yawm al-qiyamah, la résurrection. Et bien, dans surat al-takwir, la surat de l'obscurcissement, ces trois points sont réunis. On revient au contexte historique de la révélation de cette surah. Déjà, premièrement, quand est-ce que cette surah a été révélée? On n'a pas d'indication temporelle nous permettant de dire absolument qu'elle est venue à tel endroit ou tel moment. Mais on sait qu'elle fait partie des premières sourates à avoir été révélées dans le Coran. Il y en a qui disent qu'elle fait partie de la cinquième révélation, d'autres qui disent avant, d'autres qui disent après. Mais on n'a pas de preuves nous permettant d'affirmer cela. Al-Muhim, c'est qu'elle a fait partie des premières sourates à avoir été révélées. Quraysh, ou l'arabe bi sifatin amma, les Arabes en général, étaient perdus dans les ténèbres de l'idolâtrie. Et ne croyaient pas en ce nouveau prophète et refusaient d'admettre qu'il y aura un jour dans lequel Allah les ressuscitera après qu'ils soient morts et qu'il les jugera. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, à travers cette sourate, va réunir ses points et avec cette éloquence inégalable et incomparable, va prouver une fois de plus que ces points-là sont réels et incontestables. Premièrement, on a l'habitude de lire dans les livres de tafsir. D'ailleurs, on revient encore à des qawa'id tafsiriya, des règles propres à l'explication du Coran. On trouve différentes catégories dans le tafsir. On a ce qu'on appelle al-tafsir al-athari. Al-tafsir al-athari, c'est le tafsir sur lequel on va se baser, le tafsir dans lequel on va se baser sur des textes venant du prophète, alayhi sallatou wassalam, des sahaba ou bien des tabi'in, voire même des fois des gens qui viennent après le tabi'in, l'athar. On a des fois tafsir, on va dire, le Qur'an, bil Qur'an. Et le meilleur exemple, c'est le tafsir de Al-Shinqiti rahmatullahi alayhi adwa al-bayan. Ce livre magnifique qui regorge de trésors inestimables. On a des fois des tafsirs, ce qu'on appelle balari. Le balara, c'est la rhétorique arabe, l'éloquence, l'art de savoir exprimer au mieux ce qu'on a en soi-même. C'est ça le balara. Ça vient du verbe balara qui veut dire arriver. Balara al-rajulo ila manzilihi, il est arrivé à sa maison. Le balara, c'est l'art de faire comprendre à son interlocuteur de la meilleure façon ce que je ressens, ce que je veux dire. Et sachez que cette science-là, elle est très très précise, et que quand on l'étudie, wallahi, et je dis ça sans exagération, on lit le Coran différemment. Alors qu'on a des tafsirs qui insistent sur cette façon d'expliquer le Coran. Revenons à Surat al-Takwir. On revient donc au tafsir al-Athari, comme le tafsir d'Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, qui est une référence dans le domaine. Où, au début de chaque surah, Ibn Kathir, rahimahullah, a l'habitude de nous rapporter des hadiths qui font référence à la sourate en elle-même, entièrement. Des fois, il y a des hadiths sahih, des fois, il y a des hadiths qui ne le sont pas. Surat al-Takwir, lorsqu'on voit la muqaddima, on trouve un hadith qui est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, d'après Ibn Umar, radiyallahu anhuma. Le prophète dit, alayhi sallatou wassalam, man sarrahu an yanzura ila yawmi al-qiyamati. كأنه رأي عين أو كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. Le prophète dit, عليه الصلاة والسلام, celui qui veut être heureux, من سره, celui qui voudrait être réjoui de pouvoir voir le jour du jugement comme s'il le voyait avec ses yeux, qu'il lise surat إذا الشمس كورت et la sourate Ida Sama Un Fatarat et la sourate Ida Sama Un Shaqat. Qui parmi nous ici n'a jamais imaginé plus ou moins à quoi va ressembler le jour du jugement? Qui? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que celui qui voudrait le voir avec ses yeux, qu'il lise ses sourates. Mais nous, on doit les comprendre. Si on ne comprend pas l'arabe. Illa marrahima rabbi. Après les films de science-fiction, la Steven Spielberg, on voit des trucs qui des raz-de-marée, des maisons qui tombent et tout ça, ça c'est de la science-fiction. Même des fois, tu vois, subhanallah, sur internet, tu tapes Yawm al-Qiyama dans YouTube ou Dailymotion et tu vois, ils prennent des extraits de films de Steven Spielberg ou l'akhor, je ne sais plus comment il s'appelle, ils te mettent sur un fond de Coran, ils te montrent Yawm al-Qiyama, c'est ça. Mais bari hada. Ça c'est des choses qui ne sont pas correctes. Et des ulama comme Cheikh Salah al-Fawzan, hafidhahullah, ils ont refusé ces choses-là. Et ils ont dit qu'il ne fallait pas jouer avec ces choses-là. Al-Muhim, on commence. Ida shamsu kuwirat. Premièrement, Ida, grammaticalement parlant, est un, entre guillemets, excusez-moi la barbarie française, un adverbe de condition. D'accord? Ida shamsu kuwirat. Donc lorsque vous trouverez Ida dans une phrase, ça indique une condition. Et la condition en arabe, elle est manifestée ou bien symbolisée par un verbe. Et cette condition, elle aura une réponse. Exemple, Ida dakhala ar-rajulu kharajtu min al-masjid. Lorsque l'homme y rentre, alors moi je sors de la mosquée. Donc j'ai le verbe de la condition qui est dakhala et j'ai la réponse à la condition qui est je sors. Ça va, vous me suivez? Vous êtes sûr? Ça va, Yahya, bien, quoi. Taille. Ida shamsu kuwirat. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faudra retenir ce point-là quand je vais arriver à la fin, justement, de cette condition. Surat At-Takwir est composée de 29 versets. Inch'Allah, ce tafsir de la surat, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de la faire entière, on va la couper en deux. Je vais m'arrêter aujourd'hui au 14e verset. Et demain, je reprendrai la fin de la sourate bi-idhnillah et tabaraka wa ta'ala. Les 14 premiers versets se divisent en trois parties. Les 6 premiers versets font référence à des éléments qui auront lieu avant le jour du jugement. Attendez, je lui en veux à ce micro, tout à l'heure je tape dedans. Hein? Font référence à 6 éléments qui auront lieu avant le jour du jugement. Les 6 versets qui suivent, 6 ou 7. Non. Les 6 versets qui suivent font référence à des événements qui auront lieu durant le jour du jugement. Et le dernier verset, lui, est la réponse de ces conditions. Premier verset. Idha shamsu kuwirat. Ash-shams jurmun mudhi wa makhluqun azim wa 'azamatuhu إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الخالق جل وعلا. Le soleil, إذا الشمس كورت. Traduction qu'on trouve relativement dans les différentes traductions. Lorsque le soleil sera obscurci. Donc le soleil est cette création, cette créature éclairante par laquelle les créatures vivant sur terre, donc, font leurs besoins quotidiens. Lorsqu'ils se lèvent, leur journée a lieu, et ils font ce qu'ils ont à faire, et lorsque le soleil se couche, ils rentrent chez eux pour se reposer, jusqu'à ce qu'ils se lèvent à nouveau. Le soleil, cette créature immense, malgré sa grandeur, et sa force, et son, entre guillemets, pouvoir, entre guillemets, bien entendu, est une créature asservie. Une créature qui est comme toutes les autres, quelle que soit leur taille ou leur pouvoir, qui est sous la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des êtres humains, de par leur faiblesse d'esprit et leur ignorance, et de par l'égarement satanique, qui ont attribué l'adoration au soleil en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors Allah azza wa jal, il nous montre dans le Coran que le soleil, quelles que soient les utilités qui découlent de sa présence, reste une créature comme les autres qui obéit à l'ordre divin. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il nous parle de, comment dirais-je, du passage du soleil dans le ciel. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسُ, le soleil تَجْرِي, vogue, لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, vers un endroit où elle s'arrête. Et dans le hadith d'Abu Dhar, si je ne me trompe pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, lorsqu'il a vu se coucher le soleil, il a dit à Abu Dhar, أَتَدْرِي أَيْنَ تَغِيبُ, est-ce que tu sais où est-ce que le soleil disparaît lorsqu'il se couche? Alors Abu Dhar radiyallahu anhu a répondu, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager savent mieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que le soleil, lorsqu'il se couche, va se prosterner devant le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah ta'ala lui accepte cette prosternation et lui dise de repartir. Alors elle repart à nouveau faire ce pourquoi Allah ta'ala l'a créé. Et ceci jusqu'à un terme précis. Comme dans le Coran, Allah ta'ala il dit وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, يعني أي الله عز وجل a servi le soleil et la lune, كُلُّن, chacun d'entre eux, يَجْرِي, vogue, إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى, jusqu'à un moment déterminé. يعني il y aura un moment où Allah تبارك وتعالى il fera que la course du soleil ainsi que la course de la lune s'arrête. Et ça, c'est la fin du hadith qu'on a dit tout à l'heure. Comme quoi, il arrivera un jour où le soleil viendra se prosterner comme en son habitude devant le trône d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah, azza wa jal, n'acceptera pas sa prosternation et il lui dira, retourne d'où tu viens. Et là, le soleil se lèvera de son coucher. Et yawm al-qiyamah, et comme on l'a dit tout à l'heure, les six premiers événements se passent avant le jour du jugement. Donc, ce qui va montrer l'avènement de ce jour fatidique, c'est l'obscurcissement du soleil. Le mot kouwirat. Kouwirat. Donc le ça vient, ça kouwirat, c'est un verbe conjugué à la voix passive. Taïb, lorsque le soleil sera obscurci. Et maintenant, on a supprimé le sujet. Mais on sait tous que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui commande cela. Wat takwir, fil lugha, lahu iddatu ma'ani. Et le mot takwir en arabe, il a différents sens. Parmi ces sens, c'est celui qui est le plus propre au contexte, c'est le principe de tournage, rotation, barakallahu fik, le fait de tourner la rotation. Dans le Coran, Allah Ta'ala, dans un autre verset, il nous dit, yukawwiru al-layla 'ala an-nahar. Il fait tourner la nuit sur le jour. Taïb, la nuit, elle succède au jour comme s'ils tournaient l'un après l'autre. Taïb. Et les Arabes, ils disent, كَوَّرَ الرَّجُلُ عِمَامَتَهُ. L'imama, le turban, vous voyez, c'est une longue, c'est un long morceau de tissu, que l'on met au-dessus de sa tête et qu'on fait tourner, jusqu'à ce que ça fasse le fameux turban que vous connaissez. On appelle ça takwir, le fait de tourner sur soi-même. Les ulama, ils ont expliqué quoi par rapport à ce sens? Ils ont dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il va faire tourner le soleil sur soi-même jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. D'où l'obscurcissement qui a été choisi comme traduction du terme dans les traductions du Coran. Donc le soleil, il va tourner sur lui-même jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. Hatta yadhhaba dawuha. Jusqu'à ce que sa lumière disparaisse, et il y aura plusieurs étapes qui vont suivre cet événement-là. Premièrement, il va tourner sur lui-même. Deuxièmement, il va perdre sa lumière. Troisièmement, il sera fusionné avec la lune. Il sera fusionné avec la lune. والدليل قوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Lorsque les yeux seront ébahis et que la lune aura disparu et que on réunira le soleil et la lune. Le soleil et la lune seront réunis. Pour finir où? Dans la mer. Pour finir où? Dans la mer. Et là-dessus, un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le soleil et la lune seront réunis et seront enfouis dans la mer. Et il y a encore une étape, mais je la laisse pour tout à l'heure, car ça vient de la succession. Et Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous explique cette succession d'événements qui concernent le soleil, c'est pour qu'on comprenne que quelle que soit la grandeur de la créature, elle reste sous l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala en fait ce qu'il veut. Alors comment, être humain, tu peux adorer autre qu'Allah alors que c'est Allah ta'ala qui l'a créé? Idha shamsu kuwirat. On a expliqué ce verset. Deuxième verset. Wa idha an-nujumu kadarat. Et lorsque les étoiles se disperseront. C'est comme ça que c'est traduit. Et c'est un des termes, un des sens du mot inkadara. Et dans l'autre surah, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَالْإِنْتِثَارْ c'est l'intichar. L'intichar, dans l'autre verset, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ça veut dire le dispersement. Donc on comprend deux sens. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ lorsque les étoiles seront, entre guillemets, décrochées du ciel et tomberont. تَسَاقَطَتْ elles tomberont. وَتَنَاثَرَتْ elles se disperseront. Elles tomberont et chacune quittera l'endroit dans lequel elles se trouvent dans le ciel. Elles tomberont et elles se disperseront. ثم قال تعالى وإذا الجبال سيرت. Et lorsque les montagnes seront, on les fera partir. وإذا الجبال سيرت. Hein, سار يسير, partir. Tout à l'heure, Cheikh Bouzaïd a fait une référence marocaine à l'emploi de ce terme. Sara yassiru partir. Wa idal jibal usuyirat. Là, on les fera partir. Parce que les montagnes, elles partent pas d'elles-mêmes. Les montagnes, elles sont à leur place. Elles ne bougent pas. Allah dit dans le Coran, wal jibal awtada. Al jibal awtada. Al awtad jam'u watad. Et le watad, c'est le, comment on appelle ça? Le truc qu'on met pour planter une tente. Le pieu. Quoi, pardon? Le piquet, d'accord. Je préfère pieux. Donc la montagne, elle a ce but, c'est de maintenir les différentes parties de la terre. Et elle reste immobile, immuable. Elle ne bouge pas. وَلَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تِلْكَ الْجِبَالُ تَتَقَلَّعُ عَنْ أُصُولِهَا وَتَذْهَبُ وَتَسِيرُ. Mais ce jour fatidique, ces montagnes seront déracinées et partiront. قال سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Et tu vois les montagnes, tu as l'impression qu'elles sont immobiles alors qu'elles se déplacent comme les nuages dans le ciel. Et lorsque les montagnes seront déracinées, alors la terre perdra son équilibre. Alors la terre perdra son équilibre. ثم قال سبحانه وإذا العشار عطلت وإذا العشار عطلت. عشار c'est le pluriel du mot عشارa. Et pour les amoureux de la langue arabe, je sais que vous l'êtes tous, sachez qu'en arabe il n'y a que deux mots qui au singulier répondent à la forme fi'al, qui répondent à la forme fu'ala, et au pluriel répondent à la forme fi'al. Donc عشار c'est le pluriel de عشارة, et نفاس c'est le pluriel de نفاسة. Il n'y a pas d'autre mot à part ces deux syllabes là qui répondent à cette règle. فعلاء في المفرد فعال في الجمع. فهمها من فهمها ولم يفهمها من لم يفهمها. المهم العشار c'est le pluriel donc de عشارة. Et العشارة c'est la chamelle qui est enceinte. La chamelle qui est enceinte mais qui n'a pas encore accouché. Et sachez mes frères, et je sais que vous le savez, que les chamelles, notamment les chamelles rousses, étaient et demeurent jusqu'à présent le bien le plus précieux des Arabes. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait des comparaisons aux chamelles rousses pour montrer l'énorme valeur d'une chose. Comme le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humrin na'am khayrun laka min humrin na'am, que tu sois la cause de la guidée d'un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. Donc les chamelles, sachez mes frères que les bergers qui s'occupent des chameaux et des chamelles portent une attention particulière aux chamelles qui sont à terme. Lorsque la chamelle arrive à terme, et en général sa période de gestation ne dépasse pas 10 mois, lorsqu'elle arrive au 10e mois, le berger oublie tout. Et il reste à côté de sa chamelle jour et nuit jusqu'à ce qu'elle accouche. Car pour lui, c'est un bien inestimable. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ أَيْ أُهْمِلَتْ وَتُرِكَتْ بِلَا رَاعٍ عُطِّلَتْ, c'est-à-dire, on ne leur prêtera plus attention et elles resteront sans berger, sans quelqu'un qui les surveille. Ce jour-là, il sera tellement terrible et fatidique que la chose qui a le plus de valeur à tes yeux, tu l'oublieras. Et Allah Azza wa Jalla s'adresse aux Arabes, des Arabes qui vivent dans le désert, des Arabes qui ont des principes, des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils n'aiment pas. Et parmi les choses qu'ils aiment et parmi les choses qu'ils aiment le plus, les chamelles. Et Allah Azza wa Jalla, pour leur faire comprendre à quel point ce jour il est grave, il a pris comme exemple la chose qu'ils aiment le plus, ce sont les chamelles. Et wallahi mes frères, bi'idhnillah, si Allah nous permet, un jour on fera un dars sur les chameaux dans le Coran. Allah dit dans le Coran, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Et si Allah tabaraka wa ta'ala il te dit, ne vont-ils pas voir vers les chamelles ou bien vers les chameaux comment ils ont été créés, et qu'il est fait de cette créature un élément de méditation et de concentration qui va nous permettre de reconnaître en Allah ta'ala sa grandeur et sa suprématie, ce n'est pas pour rien. Et celui qui réfléchit un peu et qui lit le Coran et qui sort les versets où les chameaux ils sont concernés, wallah il voit ajab al-ujab. Que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna ou bien dans le waqi'. Que ce soit dans le Coran, dans la Sunna ou bien même dans la réalité. Ces découvertes scientifiques que l'on fait sur le chameau. Ça, c'est des choses, malheureusement, qui parmi nous ne connaît pas surat al-Ghashiyah ici. Les husni dhan nibikum, aqulu laysa hunaka ahadun man lam ya'rif hadihi ali as-sura. Hein, pour ma bonne opinion envers vous, je suis quasiment sûr qu'aucun parmi vous ignore, ne connaît pas cette sourate. Mais qui parmi nous a déjà pensé à réfléchir sur les chameaux? Hein? La seule chose que nous on se pose comme question, ça a une bosse ou deux bosses un chameau déjà, j'ai oublié. Al-Muhim, ça on en reparlera plus tard. Mais, إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, c'est quelque chose de fort. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a pris comme exemple la chose que les Arabes ils aimaient le plus. Ils aimaient le plus. Les chamelles, enceintes, à la fin de leur période, qui est prête à accoucher, normalement, qui est accompagnée tout le temps par son propriétaire pour être présent lors de l'accouchement, eh ben ce jour-là, plus de chamelles, plus d'enfants, plus rien du tout. On oublie tout. On oublie tout. Ce jour-là, c'est un jour terrible. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ceux-ci ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités un jour, pour un jour qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les gens se dresseront devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et lorsque الْوُحُوشُ c'est جَمْعُ وَحْشُ وَالْوَحْشُ مَا لَا يُؤْلَفُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ. الْوَحْشُ, on traduirait ça en français par la bête sauvage. La bête, plus précisément, non domesticable. Ce sont les bêtes qui vivent toutes seules, qui ne peuvent pas vivre en compagnie d'autres espèces, notamment celles des êtres humains. Donc les bêtes domestiques, on les appelle bahimatul an'am, les bestiaux, tels que les ovins, les bovins, les camélidés et autres. Les chameaux, les moutons, les boucs, et ainsi de suite. Ces bêtes-là qui vivent en troupeau et qui acceptent, entre guillemets, la cohabitation avec les êtres humains. Les autres animaux qui, eux, vivent tout seuls, on les appelle al-wuhush. Al-wuhush. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. حُشِرَتْ أَيْ جُمِعَتْ. Et lorsque les bêtes sauvages qui ne sont pas réunies, qu'on ne peut pas réunir, seront réunis. الحشر بمعنى الجمع, يعني la réunion, le fait de les rassembler, le rassemblement. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en nous informant de cela, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? وَهُوَ أَعْلَمُ جَلَّ وَعَلَى. c'est que des bêtes que les humains sont incapables de domestiquer et de garder ensemble, parce que t'as déjà vu toi un berger avec un troupeau de lions, avec un troupeau de zèbres, avec un troupeau de je ne sais quoi? Non, ce ne sont pas des bêtes qu'on peut domestiquer. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, il réunira ces bêtes pour faire comprendre à l'être humain que si Allah Azza wa Jal réunit les bêtes que l'être humain lui-même il est incapable de réunir et de rassembler, alors qu'il sache que lui-même ne pourra pas échapper à ce jour-là. Et vous savez tous que les êtres humains, le jour du jugement, tenteront de fuir. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. L'être humain dira ce jour-ci, où est la fuite? Et dans Surat Ar-Rahman, Allah Ta'ala dit, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala réunira les êtres humains et les djinns le jour du jugement, ils essaieront de s'enfuir. Alors Allah les appellera et leur dira, ô vous, peuple des djinns et des êtres humains, si vous êtes capables de quitter les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous n'y arriverez qu'avec une force immense, par lequel des bienfaits de votre Seigneur continuerez-vous à nier, si vous essayez de quitter ces limites-là. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ. On vous jettera un astre, une comète, une boule de feu, وَنُحَاسَ de cuivre, فَلَا تَنْتَصِرَانَ, et vous ne serez pas secourus. Donc tu dois comprendre que ce jour-là, Allah il réunira tout le monde. Ibn Abbas radiallahu anhu ma yaqul, يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ حَتَّى الذُّبَابِ. Allah Azza wa Jal réunira même les mouches, tous. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Donc si les bêtes sauvages seront réunies et rassemblées, فَالْبَاقِ مِنْ بَابْ أَوْلَى, le reste, à fortiori, ni de surcroît, ils seront réunis encore plus facilement. وَالْكُلُّ عَلَى اللَّهِ هَيِّنٌ. Et tout est simple pour Allah Azza wa Jal. Autre explication connue chez les savants, c'est que le wuhush, ça fait référence à toutes les bêtes. Comme dans Sourate Al-An'am, Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Il n'y a pas une bête sur terre, ni un oiseau dans le ciel qui bat des ailes, sans que ce ne soit des communautés comme les vôtres. Et nous n'avons rien omis dans le livre. Ensuite, ils seront tous réunis devant leur Seigneur. Pourquoi? Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala, il va juger entre ces bêtes. Et il va donner à la bête qui a été opprimée le droit de reprendre son droit à celle qui lui a fait du mal. Il y a un hadith, le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, qu'Allah Azza wa Jal ressuscitera la bête dénuée de cornes, ainsi que celle qui a eu des cornes et qui l'a frappée, afin que celle qui n'avait pas de cornes puisse reprendre son droit sur l'autre. Et après quoi? Après, ils deviendront de la poussière. Après, ils deviendront de la poussière. Car ces bêtes-là ne sont pas responsables de leurs actes, elles ne seront ni punies ni récompensées pour ce qu'ils ont fait ici-bas. Et le kafir qui verra ces bêtes-là, entre lesquelles on jugera, et qui verra par la suite qu'ils deviendront poussière, qu'est-ce qu'il dira? Ech? Ya laytani kuntu turaba. Si seulement, moi aussi je pourrais être de la terre. Mais non. Tu vas être ressuscité ce jour-là, et tu vas voir la justice d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est tellement parfaite qu'il donne justice même à des bêtes qui vont, à par la suite, revenir au néant. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Et ça, c'est le dernier de ces événements qui auront lieu avant, donc, le jour du jugement. Après, on passe à la deuxième étape. Six événements qui auront lieu durant le jour du jugement. قال الله تبارك وتعالى وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت. Et lorsque les âmes seront entre guillemets mariées ou bien rassemblées, réunies, jointes. Et sachez que le mot nafs dans le Coran a plusieurs sens, et parmi ces sens là l'âme. Donc là on fait référence aux âmes. Et les ulama, ils ont dans ce verset deux explications. Et là, on revient à une règle. Lorsque on trouve deux explications différentes pour un seul verset, s'il est possible de faire le lien entre les deux, alors on doit mettre les deux sens sur le verset. Je répète, lorsqu'un verset dispose de plusieurs explications entre lesquelles il n'y a pas de contradiction, alors il est obligatoire de faire porter au verset toutes ces explications. Exemple, في قوله تعالى وكأسا دهاقا قال ابن عباس فيما أذكر واستغفر الله إن أخطأت قال ابن عباس أي مليئة وقال مجاهد أي من قوارير والثالث أي نعم وقال الثالث لا أذكر اسمه وقال الثالث أي لا تنتهي وكأسا دهاقا dans سورة عما يتساءلون et un verre دهاقا ابن عباس في دهاقا ça veut dire plein le verre il est toujours plein يعني le verre il est plein Mujahid il dit quand on en boit il ne se vide jamais et le troisième il dit que le verre il sera min qawarir يعني en cristal et comme il n'y a aucune contradiction entre les trois explications alors on dira que le verre il sera plein qu'il ne se videra jamais et qu'il est en cristal. On revient au verset. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Première explication, c'est que lorsque les âmes rejoindront leur corps. Comment ? C'est lequel ? أَيْنَعَمْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Je n'ai même pas écrit. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ D'ailleurs, c'est ce verset, il est important par rapport au Shams au début de la surah. Et lorsque la mer سُجِّرَتْ Les savants, ils ont divergé sur son sens sur trois paroles. Ils ont dit Sudjirat ay muliat, elle sera remplie. Ils ont dit Sudjirat ay udjijat wa uqidat, elle sera portée à ébullition, elle sera allumée, elle deviendra du feu. Et d'autres, ils ont dit Furirat, elle sera vidée. Et là, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il arrive à faire le lien entre les trois parties. Il dit c'est simple, il n'y a pas de problème. Les trois, ils ont raison. Premièrement, la mer, elle sera vidée. Deuxièmement, elle sera re-remplie. Et troisièmement, elle sera allumée. Et là, on revient au premier verset. On a dit que le soleil il tournera sur lui-même. Il perdra sa lumière. Il fusionnera avec la lune. Et ils seront jetés dans la mer. Et c'est lorsqu'ils seront jetés dans la mer que la mer deviendra entièrement du feu. Imagine-toi là, la quantité d'eau qu'il y a sur terre. Et ben, tout ça, ça deviendra du feu. Il y a même certains peu prédécesseurs qui ont dit que l'enfer, eh ben, ce sera la mer. Il y en a qui ont dit ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Al-ilmu indallah. Donc, idha al-biharu sujirat, trois choses. Elle sera vidée pour être re-remplie et pour être portée à combustion, à ébullition après que le soleil y soit, avec la lune, y soit jeté. On revient donc. Wa idha an-nufus zuwijat. Lorsque les âmes seront, entre guillemets, mariées, réunies, rassemblées. On a dit deux explications. La première, lorsque les âmes rejoindront leur corps. Et ceci, mes frères, a lieu deux fois dans ton existence. La première fois, après 120 jours dans le ventre de ta mère, Allah tabaraka wa ta'ala, il t'envoie un ange qui t'insuffle ton esprit. Et l'ange, il y en a qui disent c'est le même, d'autres disent c'est un autre. Il vient et on lui ordonne d'inscrire quatre, entre guillemets, mots. Katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyun aw sa'id. La subsistance qu'il aura ici-bas, les actions qu'il y commettra, et la durée de son existence, et est-ce qu'il sera heureux ou triste à jamais au paradis ou en enfer. Tu vis ce qu'Allah Ta'ala t'a écrit. Et Allah Ta'ala, un jour, il ordonne à l'ange de la mort de venir recueillir cette âme-là. Lorsque Allah Ta'ala, il a recueilli ton âme, tu meurs. Et après, il y a un lien assez spécial entre le corps et l'âme. Mais, comme les ulama nous disent, les âmes des croyants sont fi illiyin et les âmes des kuffars sont fi sijjin. Illiyin, c'est le plus haut degré des cieux. Et Sijjin, c'est le plus bas degré des terres. Ensuite, Allah Ta'ala, il fait tout disparaître. Et il ordonne à Israfil, alayhi salam, cet ange qui est chargé de souffler dans la trompe, de souffler la deuxième fois. Et là, les âmes, reviennent dans leur corps. Rihlatul arwah. Rihlatul arwah, yani le voyage des âmes. et toutes les âmes partent en même temps de l'endroit où elles se trouvent, soit fi'illiyin, soit fi'sijjin, et elles retournent dans leur corps, dans le corps de leur propriétaire. Et il n'y a pas une âme qui rate son corps. Parce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne et qui gère et qui organise, et rien n'est plus parfait que son ordre. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième explication chez les savants. Wa idhan nufus zuwijat bi'tibari ajnasiha min as-salihin aw at-talihin min al-mu'minin aw al-kafirin, en fonction de leur nature, est-ce qu'ils étaient croyants ou mécréants, bons ou mauvais. Ça veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va réunir les bons ensemble et il va réunir les mauvais ensemble. Qala subhanahu wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Et vous serez trois groupes. Azwaj, parce que zawj en arabe c'est une paire. Zawj en arabe c'est une paire. Vous serez trois, entre guillemets, paires, trois groupes. Les gens de la droite, les gens de la gauche et as-sabiqun, ceux qui ont devancé. Donc les croyants ensemble et les koufars ensemble. Et ça, mes frères, même ici-bas, c'est comme ça. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, et on reste dans les âmes. On fait un lien avec la parole précédente. Inna al-arwaha junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha akhtalaf. Les âmes sont des troupes, des armées, yani classées. Celles d'entre elles qui se reconnaissent s'unissent, et celles d'entre elles qui ne se reconnaissent pas divergent. Et là, tu comprends pourquoi des fois, des gens, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Mais il y a ce feeling, le courant qui passe directement. Parce que les âmes, elles sont sœurs. Elles se sont retrouvées. Elles se sont reconnues. Qu'Allah fasse que nos âmes, elles soient toutes parmi celles des pieux et des véridiques. Et les koufars, pareil. Les koufars, pareil. Ils se retrouvent. Malgré leur divergence sur plein de choses, ils sont tous d'accord sur le kufr. Ils sont tous d'accord sur la mécréance. Al-kufru millatun wahida. La mécréance est une seule religion. Et yawm al-qiyam, Allah tabaraka wa ta'ala, il va les réunir ensemble. Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Réunissez, rassemblez les injustes et ceux et wa azwajuhum. Ça veut pas dire leurs femmes comme certains auraient pu le comprendre. Mais ça veut dire ceux qui sont comme eux, man kanu ala shakilatihim, ceux qui sont de la même nature qu'eux dans la mécréance. Ushuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah, ainsi que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, fahduhum ila siratil jahim, guidez-les alors vers le chemin de la fournaise, wal iyad billah. Et là, sachez que la réunion, elle sera non seulement dans le groupe, mais elle sera aussi physique. قال سبحانه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Et tu verras les criminels ce jour-là. مقرنين في الأصفاد, c'est intraductible, mais ça s'explique. Les savants, ils ont expliqué qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il prendra de chaque du groupe des mécréants une paire de deux personnes parmi les mécréants, et il les enchaînera ensemble. Et vous savez comment ils seront enchaînés chacun? Ils auront les mains enchaînés à leur cou et leurs jambes enchaînées à leur nuque. Leurs jambes enchaînées à leur nuque. Je sais pas si vous voyez. Ça veut dire que les jambes, elles iront vers l'arrière. Elles iront vers l'arrière pour rejoindre la nuque et ils seront enchaînés complètement comme ça. Les mains devant, les pieds derrière. Chacun tout seul, et Allah, il en prendra deux et il les mettra ensemble et les jettera en enfer. Wal'iyadu billah. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Et là, on revient à l'âge qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles. Soit c'est le mariage, entre guillemets, des âmes avec leur corps le jour du jugement, ou soit c'est le mariage des gens en fonction de leur nature, bonne ou mauvaise, croyante ou mécréante. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Al-Maw'ouda vient d'un jiz' lugawi, wa'ida. Wal-wa'adu fil lugati al-thiqal. Al-wa'adu, en arabe, ça veut dire l'alourdissement, quelque chose de lourd. Et on a appelé Al-Maw'ouda comme cela pour faire référence à la fille qui est enterrée vivante. La fille qu'on alourdit en lui mettant de la terre sur elle. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit al-maw'ouda, il a choisi donc al-jins, al-untha, le sexe féminin, car les Arabes avaient l'habitude en général d'enterrer leur fille à la naissance. Mais sachez que les Arabes, des fois, faisaient ça aussi avec les garçons. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par pauvreté, par crainte de la pauvreté. Et le mot en arabe, أولاد, c'est le pluriel de walad. Et walad, c'est le garçon. Mais sachez que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il emploie le mot أولاد pour désigner autant les garçons que les filles. في قوله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله تعالى vous recommande dans vos enfants, vos garçons, الأولاد, للذكر pour le mâle, la part de deux femelles, la part de deux filles. Et là on comprend dans l'emploi de ce mot qu'il peut désigner autant les garçons que les filles. Donc il arrivait aux Arabes d'enterrer leurs enfants, qu'ils soient garçons ou filles, à cause de la peur de la pauvreté. Deuxième raison qui poussait les Arabes à enterrer leurs enfants, et là c'est propre aux filles, c'est le fait qu'ils craignaient la honte et le déshonneur par ces filles-là. Il y a un Arabe, dont, excusez-moi, j'ai oublié le nom, était réputé pour son honneur et sa bravoure, et qui lors d'une bataille a emprisonné des gens. Il les gardait prisonniers dans une sorte d'enclos, et la fille de ce chef de tribu s'est amourachée et tombée amoureuse d'un de ses prisonniers. Alors qu'est-ce qu'elle a fait une nuit? Elle a été ouvrir l'enclos et s'est sauvée avec Zorro. Elle s'est sauvée, le papa au matin, il cherche sa fille, il la trouve pas. Alors lui, il va voir les prisonniers, il voit qu'il s'est enfui. Qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, il s'est sauvé et il m'a enlevé ma fille. Alors il réunit toute l'armée et ils partent. Et il retrouve sa fille dans la tribu du prisonnier. Alors quand ils vont la voir, il la voit, il est rassuré, il lui dit ma fille, imagine un chef de tribu, hein, le Al Pacino de l'époque, comme ça en train, non ça vous a pas fait rire, Al-Mohim, il était là en train de avec sa tribu, son armée, et fier d'avoir retrouvé sa fille, il lui dit ya binti ta'alay ilay, oh ma fille, reviens vers moi. Elle lui dit non, ça y est, je reste avec lui, je suis amoureuse. Alors il a été pris d'une honte sans pareil. Et il a juré à partir de ce moment-là que chaque fois qu'il aurait une fille, il l'enterrerait vivante. Et les Arabes ont vu en cela une bravoure, premièrement, et deuxièmement, ont eu peur de vivre la même chose. Alors, ils ont perpétué la tradition. Ils ont perpétué la tradition. Donc en général, les Arabes enterraient leurs enfants pour l'une de ces deux raisons-là. Soit économique, soit sociale. Il y a même des affaires qui disaient comme quoi, et c'est Ibn Abbas radiallahu anhuma qui le rapporte, il disait comme quoi il y a certaines femmes qui creusaient un trou et qui se positionnaient au-dessus du trou pour accoucher. Si le bébé en tombant était un garçon, elle le récupérait. Si c'était une fille, elle l'enterrait. Wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Et lorsque la fille enterrée sera interrogée, pour quel crime elle a été tuée. Et lorsque la fille enterrée sera interrogée pour quel crime elle a été tuée. Et là, la question, elle se pose. Pourquoi on lui pose la question à elle? Mes frères, lorsqu'on lit le Coran, il faut se poser des questions. Il faut méditer et réfléchir sur le sens des versets. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne vont-ils pas méditer sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et s'ils venaient d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne vont-ils pas méditer le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Si tu lis le Coran sans le méditer, ça peut être une preuve que ton cœur est cadenassé et n'accepte pas la vérité. والعياذ بالله. Et le ulama du tafsir, il conseille aux musulmans d'essayer de comprendre l'essence des versets et d'après regarder les paroles des savants concernant ces versets-là. Soit Allah va lui accorder la réussite, et comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Ou soit il s'est trompé, et en regardant chez la parole du savant, il aura trouvé la bonne réponse et oubliera la sienne qui était mauvaise. Donc question, pourquoi on interroge la fille et pas celui qui l'a tuée? Les ulama disent qu'en général, c'est le père qui commettait cet acte ignoble et atroce d'enterrer sa fille. Son père qui est normalement la personne qui doit l'aimer le plus parmi sa famille et qui doit avoir le plus de miséricorde envers elle. Alors, comme en enterrant sa fille alors qu'elle n'est qu'un bébé qui vient à peine de naître, il a perdu toute valeur et il a perdu l'essence même de la paternité, il ne mérite même pas à ce qu'on lui adresse la parole le jour du jugement, et pour lui montrer à quel point son acte était ignoble et pour l'humilier encore plus, on va demander à la fille elle-même pourquoi son père l'a tué. Et une autre parole des savants qui disent comme quoi il faut comprendre وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ أي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée demandera pour quel crime elle a été tuée. Et en fonction de cette compréhension, ça voudrait dire que la fille enterrée ira voir son père le jour du jugement et devant toute la création elle dira « Oh mon père, pourquoi m'as-tu tué? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Chahardi, imagine-toi. Enfin, alhamdoulilah, ce n'est plus d'actualité grâce à Allah Azza wa Jal. Mais imagine-toi ce père qui a osé mettre dans un trou un bébé qui fait 2-3 kilos. Hein, les frères qui ont des enfants et qui ont soit les leurs ou bien soit autour d'eux et qui voient à quel point l'enfant à la naissance est une des créatures les plus fragiles qui soit. Un bébé comme ça que tu prends et sans aucune miséricorde et sans aucune pitié, tu n'as aucun scrupule à le regarder et à l'enterrer et à recouvrir son visage de sable et de terre. Et ben, en fonction de cette parole-là, cet enfant viendra devant son père et lui demandera pourquoi tu m'as tué? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ الصُّحُفُ أَيْ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ. الصُّحُف, ce sont les registres dans lesquels sont inscrits nos actions. Et comme on le sait tous, ici-bas, il y a des anges qui nous accompagnent et qui inscrivent toutes les actions et les paroles que l'on dit ou les paroles que l'on dit ou bien les actions qu'on accomplit. قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Il n'y a pas une parole qu'il prononce sans qu'il n'ait auprès de lui رقيب, quelqu'un qui surveille, عتيد, et quelqu'un qui est prêt à inscrire. Et dans l'autre ayat, Allah Ta'ala dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Et il y a sur vous des surveillants, kiraman katibin, des scribes nobles, ya'lamuna ma taf'alun, ils savent ce que vous faites. Et ici-bas, ce registre t'accompagne. Et lorsque tu meurs, yutwa. Lorsque tu meurs, ce registre, il est plié. Et à part le hadith que le frère Bouzaïd hafidhahullah a cité tout à l'heure, hein, idha mat ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. طيب. Lorsque le fils d'Adam il meurt, ses actions s'arrêtent. Sauf de trois façons. Une aumône continue, une science avec laquelle on profite, et un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. Sinon, ses actions, elles sont finies. Et lorsqu'Allah il finira avec la création, il n'y aura plus une hasanat en plus dans ces actions-là. Et Allah dit dans le Coran, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نُخْرِجُ لَهُ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Et à chaque être humain, nous avons assigné un livre autour de son cou. Kitab. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et c'est le jour du jugement, comme ce livre-là, en mourant, il s'est fermé, on lui déploiera. On lui déploiera et on lui donnera pour qu'il le lise. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Al-Qurtubi, رحمه الله في التذكرة, il dit, الأثر يحتاج إلى نظر في الصحة, لكن نذكره من باب الفائدة. L'Athar, on n'est pas sûr encore à son, encore. On n'est pas sûr de son authenticité, mais on le rapporte, min باب الفائدة. Comme quoi, il dit que les actions, du moins les registres des actions des êtres humains, se trouve dans la trompe de Israfil alayhi salam. Et lorsqu'il soufflera, alors toutes ces actes, tous ces registres s'envoleront dans le ciel et rejoindront leur propriétaire. Alors on l'accueillera soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et la main gauche de deux façons. Soit avec la main gauche, entre guillemets, normalement, ou soit avec la main gauche derrière son dos. Donc, Quran Allah Ta'ala, elle a fait référence à cet épisode. Comment est-ce qu'on va recevoir le livre? Pour ceux qui recevront le livre dans la main droite, Allah dit, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, alors voici ceux qui liront leur livre. Question pour celui qui réfléchit quand il lit le Coran. Pourquoi Allah Ta'ala commence la phrase au singulier au départ, quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, et il a fini au pluriel, voici ceux qui liront leur livre. Pourquoi? Parce que le croyant qui recevra son livre dans sa main droite, et à qui Allah Ta'ala aura pardonné et accepté ses œuvres, il sera tellement content qu'il retournera voir ses frères parmi les croyants et ils liront leur livre ensemble. Ils liront leur livre ensemble. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهُ. Quant à celui qui recevra son livre dans sa main droite, il dira, tenez, voici mon livre, lisez-le. Ici-bas, si tu veux être mukhlis, comme les salafis disaient, rahmatullahi alayhim, cache tes bonnes actions comme tu caches tes mauvaises actions. Attends la nuit, car à ce moment-là, les yeux, ils dorment. Les paupières sont fermées, les gens sont tous cachés. C'est pour ça que la nuit, c'est un moment particulier. Inch'Allah, on y reviendra dans la fin du tafsir de cette sourate, bi'idhnillah. Al-Muhim, lorsqu'il n'y a aucun œil sur toi, et qu'Allah Ta'ala, tu le sais, te voit toujours et t'observe, alors donne-lui, entre guillemets, fais de grandes actions et fais le plus possible. Et ces choses-là que tu caches, et que tu ne dis à personne. Et le jour du jugement, quand Allah il te les aura acceptés, te dira, Ya Abdi, laqad ghafartu lak wa taqabbaltu mink. Allahu Akbar. Oh mon serviteur, je t'ai pardonné et j'ai accepté tes actions. Et toi, tu seras content, al-farha. Al-farha, la joie immense t'envahira. Et quand Allah il te dira, va rejoindre tes amis. Imagine tes frères ici-bas, avec lesquels tu vas à la mosquée tous les jours, avec lesquels tu veux faire des umrah, tu veux faire le hajj, ou bien peut-être tu vas faire la hijra, et d'autres, ces frères que tu vois tous les jours, avec lesquels que ces frères que tu aimes, parce qu'ils suivent le même deal que toi. Et malgré ça, tu ne veux pas qu'ils sachent les actions que tu commettes, les bonnes actions que tu fais lorsque tu es tout seul. Et bien, ce jour-là, tu iras voir tes amis, tu leur diras, Ya Akhi, regarde, quand j'ai lu le Coran, j'étais tout seul et j'ai pleuré. Ya Akhi, regarde, quand j'étais tout seul et j'ai donné une sadaqa à un pauvre. Ya Akhi, regarde, quand j'étais bon envers mes parents. Ya Akhi, regarde, quand j'ai fait la prière la nuit. Ya Akhi, regarde, quand j'ai jeûné ces jours de chaleur interminables. Et que personne ne le savait. Et tout le monde sera content avec toi, te prenant dans ses bras, et tout le monde sera content avec toi. Et chacun aura son livre dans sa main droite, et tout le monde ira au paradis ensemble. C'est pas magnifique? Nas'alullah an yukrimana bitilka, bihada al-mashhad al-azim. L'autre, wal-iyadu billah, dans sa main gauche. Walida al-suhufu nushirat. Lorsque le livre sera déployé devant lui, et qu'il aura dans sa main gauche, et il dira, ya laytani lam uta kitabiyah. Si seulement on ne m'avait pas donné mon livre, walam adri ma hisabiyah, et que je ne sache pas de quel jugement je vais avoir, ma aghna anni maliya, ma fortune que j'ai amassée, accumulée durant toute ma vie ne m'a servi à rien, wa halaka anni sultaniya, et mon pouvoir avec lequel je commandais ici-bas m'a quitté. C'est fini. Wa idha as-suhufu nushirat, ya akhi. Tu es encore vivant, ton cœur bat et ton âme est toujours entre tes côtes. Ce que tu veux voir présent le jour du jugement dans ton âme, dans ton registre des actions, fais-le maintenant, ya. Ce que tu veux lire devant Allah tabaraka wa ta'ala, fais-le maintenant. Toi qui veux être fier de tes bonnes actions, toi qui veux éprouver cette joie et ce bonheur de lire tes bonnes actions aux autres le jour du jugement après qu'Allah t'ait pardonné, remplis-les maintenant, ya. Et ne te dis pas, j'ai le temps. Parce que toi, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et Allah Ta'ala, il sait quand tu vas mourir. Et peut-être que c'est beaucoup plus proche que cette date que toi-même tu t'es fixé. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et lorsque le ciel, كُشِطَتْ قَالُوا زَالَتْ وَقَالُوا ذَهَبَتْ وَالْمَعْنَى مُتَقَارِبْ وَقَالُوا مُزِّقَتْ. Lorsque le ciel disparaîtra. Et ils ont dit, lorsque le ciel sera fendu, déchiré. Et les deux sens, ils vont ensemble par rapport au texte coranique. Dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Le jour où la terre sera remplacée par une autre, ainsi que les cieux. Allah Ta'ala, il fera partir ces cieux-là, et les remplacera par d'autres. Et lorsqu'ils seront remplacés, eh ben Allah tabaraka wa ta'ala, il va les plier pour ensuite les déchirer. يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. Le jour où nous plierons le ciel ou les cieux comme la page d'un livre est pliée. Comme la page d'un livre est pliée. Et ensuite, le ciel sera déchiré. Et ensuite, le ciel sera déchiré. كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Et le jour où le ciel sera déchiré et laissera des nuages. Et les anges descendront les uns après les autres. Et Allah dit dans le Coran, هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ. N'attendent-ils que à ce qu'Allah Ta'ala vienne dans l'ombre des nuages ainsi que les anges le jour du jugement? Et stop! N'imagine pas Allah Azza wa Jal. كُلُّ مَا دَارَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Tout ce qui tourne dans ta tête, ben Allah Ta'ala est différent. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui est comparable et il est celui qui entend et celui qui voit. Ensuite Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. الجحيم اسم من أسماء جهنم. الجحيم en français on traduit ça par la fournaise si je ne me trompe pas, hein, عبد الرحمن. سعرت يعني sera chauffé au maximum. Dans le Coran Allah tabaraka wa ta'ala nomme l'enfer par différents noms. Les savants ont divergé, il y en a qui ont dit que tous ces noms là désignent l'enfer, d'autres ont dit que chaque nom désigne un degré différent. قال الشاعر النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولضى من بعدها حطمة ثم السعير وكل هول في سقر وتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير. Donc dans ce poème on a les sept mots qui définissent et symbolisent l'enfer dans le Coran. Et comme on sait, dans l'enfer il y a des darakat et dans le paradis il y a des darajat. Pourquoi? Parce que l'enfer, il part en allant vers, il va en allant vers le bas. Et le paradis, il va en allant vers le haut. Alors, on appelle les degrés du paradis ad-darajat et les degrés de l'enfer ad-darakat. Wa idha al-jahim su'irat. Et on sait, subhanallah, que l'enfer, c'est le feu. An-nar. Combien de fois Allah Ta'ala, il a parlé de l'enfer en disant an-nar, an-nar, an-nar. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد واتقوا النار التي أعدت للكافرين قوا أنفسكم وأهليكم نارا والآيات في هذا الباب كثيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه disait craignez l'enfer car sa chaleur est terrible et son fond est profond, excusez-la l'expression, et ces massues sont en fer. Et Allah dans le Coran il dit craignez l'enfer, craignez le feu qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah dans le Coran il dit préservez-vous et vos familles d'un feu qui aura comme combustible les gens et les pierres, le feu. Et là Allah Ta'ala nous dit dans ce verset que l'enfer qui est constitué de feu sera encore chauffé, sera encore chauffé. Et les hadiths concernant cela sont nombreux. الصحيح منها على سبيل المثال ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقال ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها ربها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء فشد ما تجدون من الحر والزمهرير من نفسيهما أو من نفسيها عفوا. Wajidi alayhi salatu wassalam, l'enfer s'est plaint à son Seigneur. Elle a dit, Ya Allah, mes parties s'entre-dévorent. Mes parties s'entre-dévorent. Tellement elle est torride et chaude. Alors Allah lui a permis de souffler deux fois dans l'année. Une fois en été et une fois en hiver. les plus hauts pics de température et les plus bas sont l'effet de ces souffles. Et là, mes frères, nous vivons des températures assez élevées. On sort les ventilos, on sort les climatiseurs. Les gens dehors ne supportent pas la chaleur. Ils cherchent un moyen de se rafraîchir. Ici, on peut se rafraîchir. Et comme le salaf disait, rahimahullah, c'est étonnant comment l'être humain cherche toujours à se protéger de la chaleur d'ici-bas, mais ne cherche pas à se protéger de la chaleur de l'au-delà. Hajib Allah. Comment des vérités simples comme celle-ci nous échappent. Et dans notre hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Le feu que vous avez ici-bas est une partie de 70 du feu de l'enfer. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إن كانت لكافية يا رسول الله si elle était telle qu'elle est ici-bas ça serait suffisant يعني si le feu de l'enfer était aussi brûlant que celui qu'on a ici-bas ça serait suffisant comme châtiment. Et le prophète a répondu عليه السلام لقد فضلت يعني chaque partie, les 69 parties qui restent du feu de l'enfer sont aussi brûlantes que en intensité que celle qu'on a ici-bas. C'est toujours plus, c'est toujours pire. Allah dans le Coran dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ. Ceux qui ont mécru en nos signes, bientôt ils seront plongés dans le feu. Chaque fois que leur peau sera carbonisée, nous leur remplacerons par une autre afin qu'ils goûtent le châtiment. الله في القرآن يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. Ceux qui ont mécru et qui se sont opposés au sentier d'Allah, nous leur rajouterons un châtiment à leur châtiment. Et dans le Coran, dans surat Amma yatasaalun, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que c'est pour lui le verset qui fait le plus peur dans le Coran. Et toi et moi je le lis et toi tu le lis et ça nous fait rien du tout. Un verset, tu te demandes c'est lequel? قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Goûtez, nous ne ferons que vous rajouter du châtiment, والعياذ بالله. Comme au paradis, le délice et la jouissance ne font qu'augmenter, comme en enfer, les douleurs et la torture ne font qu'augmenter aussi, والعياذ بالله, qu'Allah nous en préserve. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت, et lorsque le paradis الجنة أزلفت أي أدنيت أي قربت, والزلفة بمعنى القربة, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة. زلفة يعني la proximité, et lorsque le paradis sera approché, rapproché à qui? Au pieux, comme dans sourate Qaf, où Allah Ta'ala nous informe de ce détail supplémentaire. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Et le paradis sera rapproché au pieux, au muttaqin, sans être loin. Et Al-Baghawi rahimahullah, dans son tafsir, il dit, le paradis sera rapproché des pieux, et ils le verront avant d'y rentrer. Parce qu'ils verront l'enfer aussi. Allah dit dans le Coran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Et ce jour-là, nous amènerons l'enfer, tout le monde verra l'enfer. Et lorsque l'enfer sera amené, tiré par 70 000 brides, qui sont tirées chacune par 70 000 anges, tout le monde tombera sur ses genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté tomber à genoux. Tomber à genoux lorsqu'ils verront l'enfer. Et l'invocation des prophètes sera Allahumma sallim sallim. Ya Allah, protège, protège. Ya Allah, préserve, préserve. Tout le monde, lorsqu'ils verront l'enfer, ils tomberont à genoux. Et ils auront peur. Et Allah, pour rassurer les croyants, il rapprochera le paradis et ils le verront de leur place et ça les apaisera. Et là, une règle encore propre au Coran. Allah, il appelle le Coran, il décrit le Coran comme étant mathani. Mathani, venant de pair. Que chaque fois qu'il évoque un élément accroissant la peur, il va par la suite évoquer un élément accroissant l'espoir. Pour ne pas qu'on tombe dans le désespoir, ou qu'on tombe dans l'espérance trompeuse. Pour ne pas qu'on tombe dans le désespoir s'il n'y a que des versets faisant référence au châtiment, ou pour ne pas qu'on tombe dans l'espérance trompeuse s'il y a des versets qui n'évoquent que le paradis est la récompense. On se dit, c'est bon, on va tout seul au paradis, on n'a pas besoin d'œuvrer. Et dans l'autre contexte, il y a que des versets sur le châtiment, on va se dire, ça y est, c'est fini, on va tous y aller. Là, entre les deux, pour qu'on soit au milieu. Et la crainte et l'espérance sont pour le croyant comme les deux ailes d'un oiseau. Si une des deux se casse, il ne peut plus voler et tombe. Et même Ahmed, rahimahullah, il disait que le croyant doit être au milieu. S'il voit de sa part à du laxisme dans les obligations et qu'il tombe dans l'interdiction, alors qu'il penche un peu plus vers le côté de la peur. Comme ça, ça le poussera à revenir au milieu. Et si, à cause des péchés qu'il a commis, il tombe, il sombre dans le désespoir, alors qu'il penche plus vers le côté de l'espoir, pour que ça le pousse, et ça le motive et l'encourage à revenir au milieu. Et là, on a parlé des 6 éléments supplémentaires, ça fait 12. Et là, on arrive donc au dernier verset de la première partie du tafsir, et qui est la réponse à toutes ces conditions. Lorsque tu verras le soleil s'obscurcir, et lorsque les montagnes partiront de leur endroit, et lorsque les bêtes sauvages seront rassemblées, et lorsque la mer sera portée à ébullition, et lorsque les âmes ensemble se réuniront, et lorsque les registres des actions seront déployés, et lorsque le ciel sera déchiré, et lorsque le feu de l'enfer sera attisé, et lorsque le paradis sera rapproché, réponse à tout cela, alimat nafsum ma ahbarat. Alimat nafsun, chaque âme saura ce qui est prêt pour elle, ce qu'elle a préparé elle-même. Tout ce qu'on a fait ici-bas, il sera présenté devant nous, et on le trouvera devant nous, et on devra répondre de cela. Dans sourate Al-Imran, Allah tabaraka wa ta'ala dit: "Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad." Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khayrin muhdara, le jour où chaque âme trouvera devant elle ce qu'elle a accompli comme bien, prêt devant elle, présent. Wa ma 'amilat min su', ainsi elle trouvera aussi ce qu'elle a fait comme mal. Et lorsqu'elle verra le mal qu'elle a accompli, tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida, elle aimerait tant qu'il y ait entre elle, yani cette âme-là, et le mal qu'elle a accompli, une immense distance, une très lointaine distance. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah, et Allah vous met en garde contre lui-même. Wallahu ra'ufun bil 'ibad, et Allah Ta'ala est doux envers ses serviteurs. Et Allah Ta'ala est doux envers ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: "Ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman fayanzuru aymana minhu ay an yaminihi fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu ay an shimalihi fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhihi fattaqu an-nara walau bi shiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin tayyibah." Wa dit alayhi salatu wassalam: "Il n'y a personne parmi vous sans que son Seigneur ne lui parle directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Il n'y aura pas d'interprète entre eux, de traducteur. Lorsque tu seras appelé à comparaître devant Allah Azza wa Jal, tu regarderas à ta droite et tu verras ce que tu as accompli comme bonne chose. Et tu regarderas à ta gauche et tu verras ce que tu as accompli comme mauvaise chose. Et tu regarderas face devant toi et tu auras l'enfer qui te fera face. Alors craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Comment ? En la donnant en aumône. En la donnant en aumône. Si tu n'as rien, tu ne possèdes rien, ne serait-ce que la moitié d'une date. Barakallahu fik. Si tu n'as rien, tu ne possèdes que, ne serait-ce que la moitié d'une date, et que par le biais de cette moitié de date, tu peux donner une aumône pour te sauver du châtiment, du jugement, alors fais-le. Si tu n'as pas la moitié d'une date, alors dis une bonne parole. فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Une bonne parole. Comme le frère nous a dit tout à l'heure, جَزَاللَّهُ خَيْرًا وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٍ. Et la bonne parole est une aumône. عَلِمَةٍ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. Chaque âme saura ce qu'elle a préparé. Parce que si t'as oublié, t'as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, l'âge que tu veux, il y a plein de choses que t'as pu commettre, que t'as oublié. C'est pour ça qu'il faut multiplier la demande de pardon et de repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la journée et se repentait à lui plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version, 100 fois par jour. Et il est celui à qui Allah a pardonné tous les péchés, subhanahu wa ta'ala. Et nous, on fait des péchés jour et nuit sans y réfléchir. Et est-ce qu'on demande à Allah ta'ala, on se demande à Allah son pardon 10 fois par jour? Il y a un peu prédécesseur qui est arrivé à l'âge de 66 ans, la soixantaine. Alors il a compté combien de jours ça faisait dans sa vie. Il est arrivé à un chiffre avoisinant les 15 000. Et lorsqu'il est arrivé au résultat, il est tombé foudroyé. Il s'est évanoui en criant. Lorsqu'il a repris connaissance, il nous dit, que t'arrive-t-il? Il a dit, si j'ai fait un péché par jour, depuis que je suis, entre guillemets, responsable de mes actes, eh ben, j'arriverai devant Allah avec plus de 15 000 péchés. Que dire alors si j'ai fait des centaines de péchés tous les jours? Que dire alors si j'ai fait des centaines de péchés tous les jours? On fait tous des péchés. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'a pas des péchés. C'est impossible. Mais qui parmi nous se repent à Allah Ta'ala sincèrement, lui demande le pardon? Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des fauteurs. Et les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. Et Allah Ta'ala, il a ordonné aux croyants de se repentir. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous à Allah entièrement, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Et Allah dit dans le Coran, ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Vous voulez le jour du jugement? Être apaisé, qu'Allah vous pardonne et vous donne sa miséricorde et sa récompense. Alors, multipliez les bonnes actions, éloignez-vous des mauvaises actions, et si vous tombez dedans, implorez à Allah son pardon, car Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Naktafi bihad al-qadr, inshallah, on s'arrête ici, et demain, bi'idnillah ta'ala, on finira la surah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa barakallahu fikum.